Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Guillaume Pelletier, député LR du Loir-et-Cher et vice-président délégué des Républicains.
Oui, bonjour Guillaume Pelletier.
Bonjour.
Couvre-feu avancé à 18h partout, troisième confinement ou le statu quo, nouveau conseil de défense ce matin. Est-ce que vous attendez-vous à un durcissement annoncé demain?
Je n'ai pas suffisamment d'informations, n'étant pas membre de l'exécutif, pour savoir précisément ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est que tout ce qui s'annonce, hélas, dans notre pays, à savoir le durcissement que vous évoquez et qui semble, hélas, probable, est dû à la lenteur bureaucratique administrative inédite, ou en tout cas très originale par rapport à d'autres pays de la France sur la stratégie de vaccination. Et donc le grand enjeu, là où on perd des jours et des jours depuis plusieurs mois, puisque je rappelle qu'avec Christian Jacob et Damien Abad, nos propositions constructives étaient sur la table depuis le mois de septembre, nous sommes très en retard, et parce que nous sommes très en retard, nous allons peut-être être contraints de subir de nouvelles contraintes.
Oui, alors Emmanuel Macron disait hier, il est monté au front directement, ceux qui me disent que ça ne va pas assez vite disaient avant qu'on allait trop vite. Alors nous sommes responsables, dit-il, et ça prend plus de temps qu'un tweet. Vous sentez visé par cette réaction ?
Je ne sais pas qui rencontre, alors je n'ai pas beaucoup vu de Français à travers les masques, les tests ou les vaccins, c'est-à-dire le triple échec gouvernemental, nous dire « Ah, la bureaucratie est trop efficace, l'État est trop fort, trop rapide. » Non, je n'ai jamais entendu ça, donc il faut qu'Emmanuel Macron sorte un peu de sa tour d'ivoire et aille voir... La vraie France, c'est-à-dire
il
la France
hier des en Normandie. Il était hier
oui,
en Normandie.
Oui, enfin, on sait que ses déplacements sont très encadrés. La question, vraiment, si on veut être constructif et tracer une perspective d'espérance, c'est de redire aux Français, et c'est ce que j'attends moi du gouvernement ce matin, des annonces très claires. D'abord, la transparence sur la vaccination. Combien de doses, combien de congélateurs? On n'en sait rien, nous, parlementaires, malgré nos demandes répétées.
Deuxièmement, il y a eu des informations du ministre Olivier Véran hier, mais...
Oui, enfin, on nous dit tout et son contraire. Ah, oui, moi, j'avais rendez-vous avec le Premier ministre en décembre, qui m'annonçait 200 millions de doses pour la France. Quand on écoute le ministre de la Santé, c'est 2 500 000 doses à la fin du mois de janvier. Enfin bon, les chiffres sont totalement contradictoires.
Après, c'est sur l'ensemble de l'année, probablement.
Et farfelu. Premièrement, non. Mais vraiment dans un esprit constructif. Un, la transparence. Deux, la décentralisation vaccinale. Faisons confiance au président de région, au président de département et au maire. À l'heure où nous parlons, ni Hervé Morin, ni Renaud Muselier, ni les présidents de région n'ont la possibilité et de commander des doses et... De les diffuser à l'échelle d'un territoire. Dans mon département de Loir-et-Cher, je ne sais toujours pas à l'heure, à 7h49, en ce 13 janvier, combien de centres de proximité de vaccination... Il faut bien comprendre, il faut que les vaccins aillent aux Français et non pas les Français...
Pour l'instant, c'est, au vaccin. Ce sont les plus prioritaires. C'est ce qu'on vous répond au gouvernement.
Oui,
quoi,
enfin, on se gargarise parce qu'on approcherait les 200 000 vaccinés ce matin. Les Israéliens sont à 2 millions, les Britanniques à 1,5 million. Donc on voit bien qu'il y a un problème en France. Enfin, soyons modestes et humbles. Et troisièmement, la troisième proposition que je fais et que je demande au gouvernement d'entendre, c'est un choc logistique. Nous avons les meilleurs logisticiens au monde, avec l'armée française par exemple, avec notre réseau remarquable de professionnels de santé, les pharmaciens, les infirmiers, qui à l'heure où nous parlons encore ne sont toujours pas associés à cette stratégie. Et puis enfin...
L'armée l'a été un petit peu là, dans les derniers jours.
De manière très modeste, que j'ai appris que 4 personnels des armées étaient détachés auprès du ministre de la Santé après, alors que cette demande, nous l'avons faite, nous, il y a 5 mois. Et que l'armée française, comme Tsahal en Israël, est compétente sur la question logistique. Et puis enfin, l'exemple. Il faut que chacun, j'ai vu que le pape avait pris position, il faut que toutes les personnalités qui considèrent que le vaccin est la stratégie d'espérance, c'est ma conviction, montrent l'exemple. Voilà, je pense que si on arrive à trouver le chemin de la transparence, de la décentralisation, de la logistique et de l'exemple, on fera un grand pas en avant.
Et les Français retrouveront la confiance pour le vaccin, parce qu'il y a toujours une défiance.
Et les Français retrouveront la confiance. D'ailleurs, ça a commencé à changer depuis quelques semaines. Je regardais, par exemple, chez vos confrères de TF1, des reportages très intéressants sur Israël. Beaucoup de sceptiques en Israël, voyant que 1 million puis 2 millions d'Israéliens étaient vaccinés, commençait à envisager de se faire vacciner. Donc, la confiance, vous savez, c'est la proximité. Et donc, la proximité, ce sont les élus locaux, plutôt que des hauts fonctionnaires bureaucratisés, enfermés dans leur tour d'ivoire.
Dernière question pour revenir quand même à ce qu'on disait au tout début. Est-ce qu'il est envisageable de reconfiner là, est-ce qu'il faudrait le faire?
Il faut tout faire pour éviter de reconfiner.
Ah, pour éviter de reconfiner.
Bah oui, enfin, ouais. vous rendez compte, vous mesurez
non,
comme
non,
moi,
bien sûr,
les conséquences du confinement sur le plan économique, social, psychologique, la détresse des étudiants, ouais. l'effondrement de l'économie française, le manque de perspectives, tout ça est dramatique.
Chez nos voisins, on le fait, en Angleterre par exemple aussi, certains disent il serait préférable de faire un confinement rapide plutôt que des couvre-feux à 18h.
Très
etc.
certainement, mais là encore,
non, c'est une hypothèse,
le rôle d'un homme public est-il de gérer les conséquences ou de s'attaquer à la cause?
Oui.
La cause de tout cela et de ces mesures, hélas, qui s'annoncent, c'est que nous ne sommes pas capables en France d'avoir une stratégie de vaccination offensive et audacieuse. Et donc, moi, je mets ce matin à nouveau sur la table, au nom et avec les Républicains et le groupe parlementaire, des propositions très concrètes pour qu'on accélère, pour tracer une perspective. Oui, les Français, je pense, seraient prêts éventuellement à accepter des mesures lourdes pour janvier et février si on leur disait qu'en mars, enfin... Ce sera
donc
pas
il faut de la clarté, alors, c'est ce que vous dites, quoi.
Oui, une perspective
de
d'espoir, un calendrier.
Emmanuel Macron, Olivier Véran, le Premier ministre
du président de la République et de son gouvernement. Oui. Mais aujourd'hui, tout le monde dit tout et son contraire. Et donc, l'urgence absolue, c'est la vaccination.
Oui. Emmanuel Macron entend poursuivre les réformes. Il va présider aujourd'hui un séminaire gouvernemental, notamment il sera question des retraites. Est-ce qu'il est urgent de reprendre cette réforme aujourd'hui?
Ce qui est certain, c'est que nous sommes donc en plein hiver 2021. Mmh. Emmanuel Macron a été élu au printemps 2017. Quel est son bilan? D'abord, moi je trouve son bilan ou désastreux ou famélique. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a baissé la délinquance et l'insécurité? Non. Est-ce qu'ils ont baissé les impôts? Non. Est-ce qu'ils ont baissé la dette et les déficits? Non. Est-ce que sur la question de l'islam politique et de la lutte radicale contre les communautarismes, ça va mieux? Non. Alors j'entends Madame de Montchalin et le gouvernement ce matin sortir, je sais pas quoi, des évaluations par territoire, sur le plan vélo ou le tri des déchets. Bon, tout ça est très sympathique, mais enfin, il n'y a rien sur l'emploi et le chômage, il n'y a rien sur la lutte contre l'islam politique et le rétablissement de la laïcité partout et pour tous. Donc on voit bien que le bilan est actuellement nul. Oui, j'espère et je souhaite pour mon pays, pour ma patrie, que le président de la République va enfin réformer, comme il l'avait promis, notre pays. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Et les retraites, quoi. Donc là, il est urgent pour vous, Guillaume Pelletier, alors
Ne sais pas si c'est la priorité absolue. Moi, vous savez, mon combat depuis toujours, ce qui m'a fait dire avoir... des points communs hier avec Arnaud Montebourg et d'autres. Mon combat, il est triple. Je veux lutter contre la mondialisation financière, contre l'oligarchie bureaucratique et contre le communautarisme islamique. Pour moi, ce sont les trois grands enjeux de la France aujourd'hui. Il y a sans doute plein de sujets intéressants, mais d'abord, comment on rétablit la souveraineté de notre peuple et de notre nation sur des questions de mondialisation financière. Deuxièmement, comment on redonne de l'oxygène et de la liberté dans nos territoires par rapport à une oligarchie de hauts fonctionnaires qui nous gouvernent et qui n'y comprennent rien. Et deuxièmement, comment on crée un électrochoc pour dire qu'en France, il est des valeurs non négociables et que l'islam politique n'a rien à faire en France. Voilà pour moi les trois priorités que je demande au gouvernement de mettre sur la table à l'occasion de ce séminaire.
Alors il y aura peut-être des régionales au mois de juin. Sondage ce matin en Occitanie. Carole Delga, la candidate sortante, est nettement en tête et profite des possibles divisions à droite où l'on voit que le candidat potentiel des Républicains serait devancé par le RN et l'autre candidature hypothétique de Robert Ménard qui pourrait faire alliance avec la LR, donc de votre famille, Brigitte Barège. Est-ce que ça repose la question aussi des alliances à droite?
Bon, d'abord, même si je connais bien les études d'opinion, vous êtes mieux placé que moi encore pour savoir que à 6 mois d'une élection, et je dis 6 mois, alors qu'on ne connaît pas précisément la date, alors même que personne, à part les sortants, qui sont en situation et en position, ne peut faire campagne, il faut toujours être extrêmement prudent sur les rapports de force. Nous, les Républicains, malgré des sondages qui n'étaient pas forcément en dynamique, nous avons remporté, et je crois plus les suffrages que les sondages, nous avons remporté les élections municipales, nous avons remporté les élections sénatoriales, nous aurons bien sûr l'ambition de conserver nos régions et d'en remporter d'autres, et moi j'appelle au rassemblement le plus large possible de toutes celles et ceux qui, à partir des valeurs qui sont les nôtres et des convictions que j'ai rappelées tout à l'heure, ont envie d'un grand changement. Vous savez, moi, je considère que la France...
Donc, c'est-à-dire que d'un grand changement...
Attendez, je finis juste pour bien comprendre, parce que tout est... Vous savez, on peut parler d'alliance, il faut d'abord parler de projet politique, de conviction et de valeurs. Moi, je pense que la France est trop socialiste à l'intérieur et trop libérale à l'extérieur, comme l'Europe d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en France, il y a trop de normes, trop de paperasse, trop d'administration, et donc on prive nos entrepreneurs, nos travailleurs de liberté, et qu'à l'inverse, nous faisons preuve d'une naïveté confondante à l'extérieur vis-à-vis, sur le plan commercial, par exemple, on pourrait parler des super profits des laboratoires pharmaceutiques, bref. Donc ça, c'est une vision politique. Toutes celles et ceux qui se retrouvent sur ce triptyque de priorités, c'est-à-dire non à la mondialisation, non à la bureaucratie, non à l'islam politique, et qui ont des propositions à faire, sont les bienvenus pour qu'on construise ensemble une alternative et à la gauche et aux mondialistes.
Oui. Emploi fictif parlementaire pour Cécilia Sarkozy, selon le Canard Enchaîné ce matin, alors qu'elle était l'épouse de Nicolas Sarkozy. Ça a duré l'espace de 9 mois. Les faits sont prescrits, mais quelle est votre réaction ?
Je suis un homme politique, je ne suis ni journaliste, ni magistrat, je ne connais rien de ces sujets, je crois par principe...
Enfin, vous connaissez ces sujets, vous avez vu avec Pénélope Fillon,
oui, mais je crois par principe, et je l'ai toujours fait pour n'importe quel responsable politique, de droite ou de gauche, à la présomption d'innocence, et je récuse la tyrannie de la rumeur.
Ouais.
Voilà, moi, Nicolas Sarkozy, pour moi, c'est un homme politique, c'est un homme d'État qui a réformé et défendu et protégé notre patrie et notre peuple en des temps difficiles de manière remarquable. Le reste ne m'intéresse pas. Absolument pas. C'est à la justice de décider, c'est pas à moi de commenter.
Juste d'un mot encore, les régionales, vous m'avez pas dit si vous étiez candidat ou pas, alors, finalement, vous ?
Pas moi, vous savez, je suis un petit gars de province de bon sens, je ne peux pas être candidat à une élection dont je ne connais pas la date. Oui. Voilà, donc c'est un principe
si
assez simple.
Si vous connaissez la date en juin, peut-être, vous serez candidat.
Je suis député de Loire-et-Cher, je suis président de mon groupe, je suis leader de l'opposition actuelle dans ma région. C'est une question qui se pose et à laquelle je répondrai lorsque nous connaîtrons la date.
Donc vous serez candidat quand...
on verra, peut-être.
Quand la date sera annoncée. Dernière question avec Cécile Ménibus.
Oui, le philosophe Alain Finkielkraut a été évincé de LCI suite à ses tentatives de relativiser les faits de viol d'Olivier Duhamel sur son beau-fils. Vous en pensez quoi aujourd'hui ?
Je suis tout à la fois radicalement opposé à toute forme de censure par principe, mais il y a des limites. C'est-à-dire que la justification, ou en tout cas la tentative de justification d'une différence entre un enfant ou un adolescent sur ces questions-là, me semble profondément ou déplacée ou choquante. Et donc, cette chaîne a pris ses responsabilités. Là encore, moi je ne suis pas un homme politique qui aime commenter les décisions d'entités dont je ne suis pas responsable. Je ne suis ni un magistrat, ni un journaliste. Mais si vous me posez la question, donc personnellement, ces propos m'ont choqué. Oui. Et donc, je peux comprendre cette décision.
Merci Guillaume Pelletier, député LR du Loir-et-Cher et vice-président délégué des Républicains, peut-être donc candidat aux prochaines régionales, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.
Restez avec nous tout de suite, le journal de 8h.